Second Empire.
Quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Victor Hugo.
Ans d'histoire. De tous les régimes qu'a connu la France depuis la Révolution, le Second Empire est resté un des plus impopulaires. Et les imprécations de Victor Hugo, qui de son exil à Guernsey pestait contre celui qu'il appelait Napoléon le Petit, ont fait oublier que sous son règne, la France a commencé sa révolution industrielle et qu'elle a profité d'un essor économique sans précédent dans son histoire. C'était aussi le bonheur de vivre dans le Paris d'Haussmann, du théâtre de Labiche et des ballets d'Offenbach qui faisait oublier un régime despotique et marqué dès le début par le péché originel du Second Empire, le coup d'État par lequel le 2 décembre 1851, Napoléon III renversait la Deuxième République avant de proclamer l'Empire.
Au nom du peuple français, le président de la République décrète, article 1, l'Assemblée nationale est dissoute. Ouais. Article 2, le suffrage universel est rétabli. Ouais.
L'Assemblée est dissoute. L'Assemblée est dissoute. Les députés sont emprisonnés. C'est fini, la République.
Comment ?
Louis-Napoléon a proclamé la restauration de la dignité impériale.
Ça, non, je ne peux pas voir ça. Écoute bien, Léon, je ne plaisante pas. J'aimerais mieux me séparer de toi que de t'entendre crier vive l'empereur. L'autre encore, le premier, il a fallu l'admettre. Mais celui-là, jamais. Tu m'entends bien, jamais.
Pierre Milza, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Perrin une biographie monumentale de Napoléon III, hein, 700 pages passionnantes, mais alors aussi très surprenantes parce que elle démolisse beaucoup d'idées préconçues et de clichés que l'on doit depuis longtemps à Victor Hugo. Vous, en revanche, vous faites de Napoléon III et du Second Empire un portrait beaucoup plus indulgent. C'est presque une réhabilitation, Pierre Milza.
Oui, est-ce une réhabilitation ? La réalité, c'est que, bien des égards, Napoléon III est réhabilité depuis pratiquement un siècle. Si on regarde l'histoire savante, si on regarde l'histoire des manuels scolaires, moi j'ai été instituteur et prof, enseigné Napoléon III, dans le fond, on met à son crédit un certain nombre de choses très importantes. Vous avez dit la modernisation de la France, la libération de l'Italie, le Paris haussmannien, etc., etc. Et pourtant, il reste dans les têtes, dans la mémoire collective, une image plutôt négative. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de reprendre un peu ce dossier, le mettre à plat, et de voir d'abord comment on pouvait expliquer Napoléon III, et puis s'interroger, si vous voulez, sur cette extraordinaire différence qu'on fait entre Napoléon Ier, Napoléon le Grand, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, qui a établi une dictature et dont le règne s'est terminé par une épouvantable défaite.
Oui.
Mais ça n'a pas empêché des centaines et des millions de familles d'emmener leurs petits-enfants le dimanche s'incliner devant le tombeau de l'empereur aux Invalides, alors que Napoléon III, dans les têtes, garde un petit peu cette image négative.
Et il reste en Angleterre où il est mort en 1873. On l'a pas. On y reviendra d'ailleurs, Pierre Milza. Cela dit, le départ, quand même, le point de départ, c'est affreux. Ça commence, et ça c'est indiscutable, par un coup d'État, le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, il s'appelle comme ça encore, renverse la réalité ou la substance de la République par un coup d'État. Il était à l'époque, il faut le rappeler, le premier président de la République, élu en 48, et puis il change les institutions, et il va proclamer un an plus tard l'Empire, qui est dès le départ un régime extrêmement autoritaire. Il rétablit le suffrage universel parce que l'Assemblée précédente l'avait supprimé, mais ce suffrage universel, les Français auront du mal à s'en servir, sauf pour des plébiscites, pour des espèces de référendums.
Oui, recommençons par le coup d'État. Il n'est pas question de pouvoir légitimer a posteriori le coup d'État. Simplement, il faut rappeler deux choses, simplement pour le relativiser, pour l'historiciser, si vous voulez. Le coup d'État, il a fait 400 morts. Qui sont d'ailleurs largement une bavure non imputable à Louis-Napoléon. Enfin, peu importe, ces morts sont les morts. La République qui a précédé, on a fait 5000 lors des journées de juin, enfin tirer sur les ouvriers. Et si les ouvriers ne s'opposent pas au coup d'État, si les ouvriers parisiens ne s'opposent pas au coup d'État, c'est pour ça. Ils se rappellent quand même que ceux qui ont fait tirer sur eux quelques années plus tôt, ce sont les républicains. La dictature, c'est indéniable également, c'est une dictature. C'est jusqu'en 1860-61, un régime musclé, un régime dictatorial. Le droit de vote donné aux Français, alors oui, ça c'est important. Le suffrage universel avait été largement édulcoré par une assemblée en principe républicaine qui était en fait une assemblée monarchiste. Faut pas oublier non plus que effectivement le coup d'État s'est fait contre la République, mais c'est fait surtout contre l'Assemblée législative, où il y avait peu de républicains, où la majorité était royaliste.
Oui, après, bon,
on a pris de vitesse les royalistes qui entendaient bien se débarrasser de Louis-Napoléon.
Après, il garde un Parlement, Pierre Milza, au début du Second Empire, avec ce qu'on appelle le corps législatif. Or, corps législatif, un, il peut voter les lois, mais il n'a pas le droit de les discuter. D'ailleurs, on supprime la tribune à l'Assemblée nationale. D'autre part, les députés qui sont élus sont des députés, comme on dit, des candidats officiels. Alors bon, dans des conditions comme ça, on ne peut pas dire que ce soit un régime parlementaire. D'autant plus que le gouvernement n'est pas responsable devant
le Parlement. Je crois que personne ne dit que c'est un régime parlementaire pendant cette période. Ce ne sera qu'un régime parlementaire, et encore dans la dernière année, en train de devenir un régime parlementaire. Alors le suffrage universel détourné, c'est vrai. Il y a les plébiscites. Et les plébiscites, c'est généralement 6,5 millions contre 1 million, 1,5 million, oui, y compris le dernier en 1870.
Oui, parce que là, on pose une question à laquelle personne pouvait dire non. Il y avait une caricature de Daumier qui disait, comme ça, c'est un paysan qui demande au maire, monsieur, qu'est-ce que c'est qu'un bibicite? Et le maire répond, c'est un mot latin qui veut dire oui.
Mais ça, c'est de l'extraordinaire floraison d'esprit des polémistes de cette époque. On peut dire oui, la preuve, c'est qu'au dernier plébiscite, il y a quand même 1,5 million de Français qui répondent non. Quant aux élections, avec la candidature officielle. La candidature officielle, c'est pas le bourrage des urnes. C'est effectivement soutenir un candidat contre les autres. On peut pas dire que c'est la démocratie et personne ne le dit. Simplement, ce que les historiens du Second Empire tendent à dire aujourd'hui, ça a habitué les Français à voter. Ça a habitué les Français à utiliser cette arme qu'est le suffrage universel. Ils l'ont un peu désappris depuis. Mais je crois que c'est quand même un élément qu'il faut rappeler.
Alors, malgré la dureté du régime, le Second Empire, c'était aussi une fête permanente, le théâtre de la biche, les ballet d'Offenbach et une danse nouvelle, la valse.
Et voici le Second Empire. Et le Second Empire, pour moi, c'est une valse. En 1840, on dansait la polka. En 1850, on lançait les lanciers. Mais en 52, Olivier Maistre est au pupitre et c'est la valse qui commence en sourdine d'abord. Elle va se préciser chez le duc de Morny, le père de l'empereur. On valse aux Tuileries, valse des corps en harmonie avec la valse aussi des cœurs, valse des sentiments et valse des coutumes et des gouvernements. Jacques Offenbach lui-même a fait valser Maistre et sa baguette entre ses mains devient magique. La France s'amuse. Elle reprend en cœur le refrain d'Offenbach.
Vous avez connu dans ce pot-pourri, Pierre Milza, la voix sans doute de Sacha Guitry. Remontons les Champs-Élysées, un bref passage consacré au Second Empire. C'est vrai que c'était la fête permanente du Second Empire, notamment à Paris, et dans un Paris totalement renouvelé, bouleversé, transformé par Haussmann.
Par Napoléon III. Haussmann est un grand homme, est un grand commis de l'État, mais le c'est un commis de Napoléon III. Je le dis parce que Haussmann, il a eu son boulevard en 1929, pour Napoléon III, on le verra, c'est beaucoup plus tard. Et non, dès l'arrivée à l'Élysée, mais surtout après le coup d'État, Napoléon III décide de transformer Paris, en faire la grande capitale, la belle capitale de l'Europe, et il convoque ce préfet qu'il a connu à Bordeaux, qui a été préfet de la Gironde, et lui donne en quelque sorte la consigne de transformer Paris. Donc c'est vrai, ça sera la mutation parisienne, et les transformations complètes de Paris, et pas seulement les beaux monuments, mais les écoles, les mairies, les prisons, les gares. C'est tout ça le Paris d'Haussmann et de Napoléon III.
Et de l'État donc français. Alors un État qui est vraiment à l'origine aussi d'un acquis, il faut bien le dire, du Second Empire, qui est un essor industriel. En fait, la France passe dans l'ère industrielle à l'époque du Second Empire. Elle était paysanne, agricole, elle devient industrielle, et elle devient une grande puissance industrielle même, Pierre Mélisa.
Tout à fait. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, et à la conjoncture ce qui appartient à la conjoncture, c'est qu'en même temps, le monde connaît une période d'euphorie économique. Mais un régime peut ou non accompagner cette euphorie économique, et le Second Empire va savoir accompagner, porter cette conjoncture favorable, d'où la modernisation. Alors, la modernisation, Napoléon III, qui a beaucoup vécu en Angleterre pendant son exil, il l'avait constaté en Angleterre. Et en France, il essayait de faire la même chose. Alors, les chemins de fer, on passe de 3 500 à 20 000 kilomètres, c'est deux tiers de notre réseau actuel. C'est les banques, c'est les institutions de crédit, c'est les grands magasins, le bon marché, la Samaritaine, c'est le réseau routier, c'est les canaux, c'est l'assèchement de la Sologne et des Landes. C'est donc une œuvre incontestablement
c'est la France qui est transformée, pas seulement Paris.
Avec les aspects négatifs, qu'il faut évidemment pas négliger. Les boursicoteurs, y compris Morny, le demi-frère, et comme le principal personnage politique. Bon, tous ces gens-là s'enrichissent en même temps que le Second Empire. Mais tout le monde s'enrichit, les uns un tout petit peu, le monde ouvrier lui-même, enfin le standard de la classe ouvrière est meilleur qu'en 1850,
mais c'est pas terrible quand même.
Le Second Empire reste c'est les mineurs de Zola, c'est la misère ouvrière. Mais il y a un effort dans ce domaine, un effort en même temps de législation sociale que n'ont pas connu les régimes immédiatement précédents.
Un essor économique et social qui est même mis en chanson par un partisan peu connu de Napoléon III, le grand compositeur italien Rossini, qui en 1867 avait écrit cet hymne à la gloire de Napoléon III. Dieu tout-puissant, toi notre père, veillez au salut de l'empereur.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Napoléon III et le Second Empire.
Et pour sa grandeur, pour son bonheur, veille Seigneur sur l'Empereur, c'était un extrait d'un hymne à Napoléon III et à son vaillant peuple de Rossini. Rossini qui n'était pas le seul à exprimer son admiration pour Napoléon III, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, après le coup d'État, quelques hommes de lettres voient en lui l'homme providentiel qui vient sauver la France. Le philosophe Auguste Comte, par exemple. L'heureuse crise de décembre 1851, dit-il, fait irrévocablement passer la République française de la phase parlementaire à la phase dictatoriale. Le règne des parleurs est fini, celui des faiseurs et des penseurs commence et durera. Un coup d'État salué aussi par l'écrivain Prosper Mérimée. Nos rouges, dit-il, ont reçu une raclée solide et les badauds, quelques éclaboussures qui les obligeront à l'avenir à se tenir tranquilles chez eux. Mérimée, qui sera rapidement promu officier de la Légion d'honneur. Napoléon III aura aussi le soutien de Sainte-Beuve. Nous avons besoin d'un gouvernement fort et stable, dit-il. Et lui obtiendra une chaire de poésie latine au Collège de France. Rien que ça. Mais la plupart des écrivains ne pardonneront jamais à Napoléon III l'instauration, après le coup d'État, d'un régime policier, le contrôle de la presse et des écrits, et enfin l'exil forcé de certains d'entre eux. Le plus connu, bien sûr, Victor Hugo, qui publie dès 1852 son Napoléon le Petit. Louis Bonaparte, dit-il, a fait plus que tuer les personnes. Il a amoindri les âmes, il a rapetissé le cœur des citoyens. Alors, les frères Goncourt, qui eux aussi ont eu quelques petits problèmes avec la censure sous le Second Empire, dressent un portrait peu flatteur de Napoléon III. Il a du reptile dans l'approche, du caméléon dans le mouvement, l'œil petit, éteint, avec des paupières de lézard, sinistre, gauche, fourbu, implacable. C'est cela la tête de la France, demande-t-il. Moins méchant, le libéral Tocqueville, qui après le coup d'État a refusé de porter serment à l'usurpateur, eh bien, il critique ici l'homme politique. Son intelligence, dit-il, est incohérente, confuse, remplie de grandes pensées mal appareillées qu'il emprunte tantôt aux exemples de Napoléon, tantôt aux théories socialistes, quelquefois aux souvenirs d'Angleterre où il a vécu, sources très différentes et souvent contraires. Alors Émile Zola, c'est assez étonnant, lui à la toute fin du XIXe siècle, reconnaît avec le temps avoir changé d'opinion sur Napoléon III. À 20 ans, dit-il, je tenais le neveu du grand Napoléon pour le bandit, le ruffian, le voleur de nuit. Je le voyais à travers la rhétorique hennissante, écumante, géniale de Victor Hugo. Mais, dit Émile Zola, j'en suis revenu depuis, car le Napoléon III des châtiments, c'est un croque-mitaine sorti tout droit de l'imagination de Victor Hugo. Rien n'est moins ressemblant que ce portrait, affirme Émile Zola, sorte de statue debout élevée par le poète pour servir de cible à ses crachats.
Ça, c'est un texte qu'on trouve dans votre livre, Pierre Mila. C'est extraordinaire. Zola, l'auteur de L'Assommoir, de Nana, qui se passe sous le Second Empire.
De la débâcle.
Le défenseur des ouvriers, des exclus, qui trouve des vertus à Napoléon III.
Ah oui, vous voyez, c'est la preuve que dès cette époque, il a commencé à être réhabilité par ceux qui ont voulu jeter un regard un petit peu moins négatif, enfin, tout en admettant les aspects tout à fait insupportables, quelquefois, du régime, en tout cas en ses débuts, et en même temps essayer de se montrer un peu plus juste à son égard. C'est le cas de Zola. Donc plus que Zola, c'est quand même à la fin de sa vie. C'est un moment où il va défendre Dreyfus, où il va défendre la démocratie.
C'est le cas même d'un des pères du socialisme français, qui est Proudhon, qui a trouvé des vertus aussi à Napoléon III.
Oui, alors ça n'a pas duré longtemps, mais c'était fait
au début.
Proudhon lui reconnaît notamment cette tripe sociale que n'ont pas eu les dirigeants de la monarchie constitutionnelle.
Il faut dire
pas oublier que parmi les noms qui ont été cités, parmi les opposants, il n'y a pas que des républicains. Il y a beaucoup de gens qui sont des monarchistes, ouais. Monarchistes modérés, hein, mais qui sont des monarchistes.
Et qui étaient très impressionnés aussi pour ce qui concerne la gauche française par un livre écrit en exil, même en prison, je crois, quand il était en prison avant d'arriver au pouvoir, Pierre Milza, Napoléon III avait écrit L'extinction du paupérisme. Il se préoccupait de la question sociale et vous dites qu'il était sincère.
Oh, mais il était sincère. Vous savez, Napoléon III, c'est un Saint-Simonien. Il a fréquenté les Saint-Simoniens, il sera ami de Michel Chevalier, grâce auquel, d'ailleurs, il va mettre en place sa politique douanière, qui est donc une politique libérale. Il a incontestablement un regard social. Et d'ailleurs, ce regard social, il va essayer de le mettre en pratique. Alors d'abord, dans un premier temps, de manière paternaliste. Hein, les mutuelles, des institutions qui sont paternalistes. Encore que le paternalisme, c'est peut-être quelque chose de moins répréhensible que le libéralisme patronal tel que nous pouvons le connaître à certaines périodes où on ferme l'usine la veille au soir et où les gens se retrouvent le matin et n'ont plus d'emploi.
Ça, c'est aujourd'hui.
Mais à partir de 1860, quand il va orienter son régime dans un sens plus libéral et plus proche, en somme, du peuple, eh bien, à ce moment-là, il va adopter une politique sociale qui va se traduire en particulier par quelque chose qui est quand même très important, celui qui a donné le droit de grève aux ouvriers, si ni la République ni la monarchie constitutionnelle, c'est le Second Empire. C'est Napoléon III.
Des grèves, il va en souffrir parce qu'il y en aura pas mal à la fin.
Ah, bien sûr, il va en souffrir.
Il règne
aussi quelquefois quand on prend le RER B le matin, mais malgré tout, c'est quand même une avancée de la démocratie et c'est Napoléon III qui va promulguer, enfin qui va donner ce droit de grève aux ouvriers.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'Empire libéral. Il va également rendre à l'Assemblée le droit de discuter les lois, même je crois d'en avoir l'initiative. Il va surtout rétablir une chose qu'il avait supprimée au début, c'est la liberté de la presse, des avancées que lui reprochent les partisans d'un empire autoritaire.
C'est abdiqué, sire, et c'est abdiqué à la petite semaine, que d'accorder à une presse dégénérée une liberté dont, bien entendu, elle se montre indigne, que d'abandonner votre pouvoir à un parlement où les hommes des anciens partis travaillent à ce qu'ils appellent dans leur jargon barbare la décomposition du capital autorité, enfin que d'autoriser les salons d'opposition où les membres de votre famille, sire, conspirent contre vous. Voyez-vous, sire, le rôle des hommes du 2 décembre est terminé. Pour moi, je l'avoue, je n'ai plus de courage au milieu d'une pareille anarchie morale. Pourquoi êtes-vous si sévère? Et vous, sire, comment l'êtes-vous si peu? Au spectacle que la cour elle-même vous offre, la dissipation, la corruption, gagner les Tuileries. Dans l'entourage de l'impératrice, des femmes d'ambassadeurs se conduisent comme des filles publiques.
C'était un extrait de Nana, de Christian Jacques, Nana d'après Zola. Alors ça, c'est le grand chambellan de Napoléon III qui lui reproche justement ses avancées libérales. En fait, les vrais adversaires de Napoléon III, ça a été aussi les légitimistes, les gens qui étaient partisans la monarchie. C'était aussi les catholiques, hein, il faut le rappeler. Et pourquoi? Parce qu'il y a une politique étrangère qui est très active, notamment en ce qui concerne l'Italie. Alors là, Pierre Milza, c'est quand même surprenant parce que ce sera un des défauts, bien sûr, du Second Empire. Lorsqu'il proclame l'Empire, en 1852, Napoléon III à Bordeaux dit « L'Empire, c'est la paix ». Or, dès le début et jusqu'à la fin, ce sera la guerre.
Oui, enfin, des guerres qu'il n'a pas nécessairement suscité. On a un peu tendance, quand on voit un peu loin la politique étrangère de Napoléon III, de lui attribuer toutes les responsabilités des trois ou quatre conflits dans lesquels la France va se trouver impliquée. Faut pas oublier que la guerre de Crimée, derrière l'aspect un petit peu folklorique des clés du Saint-Sépulcre, on allait combattre pour les clés du Saint-Sépulcre en Crimée, les principaux responsables, ce sont quand même les Russes. C'est le tsar qui envahit les Balkans dans un contexte international où la France et l'Angleterre sont alliés. Car l'entente cordiale, on en a beaucoup parlé dans les jours récents de l'entente cordiale, en mettant l'accent surtout sur le rôle de Louis-Philippe ou sur le rôle de la Troisième République. On oublie que l'essentiel de l'entente cordiale, c'est sous Napoléon III. Et c'est ça qui va l'entraîner dans les guerres de Crimée. La deuxième, c'est quand même la guerre pour mettre fin à la chape de plomb, pour commencer à mettre fin à la chape de plomb qu'ont été les traités de 1815. C'est la libération de l'Italie. Et celle-ci est une guerre victorieuse. Les deux premières sont victorieuse, des guerres victorieuses.
Sanglante, Magenta,
le Mexique. Sotirino, le Mexique, c'est la grande faute, c'est la grande erreur du régime, c'est la grande faute du régime. Mais qu'est-ce que c'est le Mexique? C'est une expédition coloniale qui a mal tourné. Alors on parle très souvent de cette expédition coloniale qui a mal tourné, on parle moins des expéditions coloniales qui ont bien tourné. On oublie que dans un contexte, il ne s'agit pas de savoir si on défend ou non la colonisation, mais dans un contexte d'époque qui est à la colonisation, Napoléon III donne à la France le Sénégal et l'Indochine. Bon. Sauf que ça maintenant. Quant à la dernière, là encore, bon, bah, c'est vrai que Napoléon III s'est laissé un petit peu manœuvrer par Bismarck, mais n'oublions pas quand même que le principal artisan, le principal responsable de la guerre de 70, c'est Bismarck.
Oui, mais c'est aussi l'entourage de Napoléon III. Bon, à la fin de sa vie, enfin, en tout cas, à la fin de l'Empire, il est extrêmement malade, c'est un homme diminué, qui se laisse de plus en plus gouverner, en quelque sorte, par sa femme. Et c'est elle et une partie de son entourage qui l'encourage à déclencher une guerre contre l'Allemagne pour consolider l'Empire.
Alors, elle l'encourage à faire la guerre contre l'Allemagne, elle ne le gouverne pas. Jamais Eugénie, qui est d'ailleurs un grand personnage, ne le gouvernera. C'est vrai qu'il se laisse influencer par certains membres de son entourage, mais c'est aussi vrai qu'au moment crucial, il se laisse influencer par la rue. Car n'oublions pas qu'au moment, après la dépêche d'Ems, quand on annonce finalement cette gifle que la France a reçue, il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent dans la rue. Là, c'est pas l'entourage de l'Empire, c'est pas l'entourage de l'Empereur, c'est le petit peuple parisien qui, à ce moment-là, a été gagné par la vague nationaliste.
C'est la guerre. Voici le communiqué officiel. Aujourd'hui, 19 juillet 1870, à 11h du matin... Sa Majesté impériale a fait remettre au roi de Prusse, Guillaume Ier, la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Nous n'allons pas laisser la Prusse annexer la moitié de l'Europe sans réagir.
En avez-vous bien mesuré tous les risques?
Cher ami, grâce à votre excellent matériel, nous avons battu Abdelkader en Algérie, les Russes à Sébastopol, les Autrichiens à Solferino. Demain, grâce à lui, nous irons corriger M. Bismarck à Berlin. Le ministre de la Guerre l'a encore répété la semaine dernière, nous sommes prêts. Il ne manque pas un bouton de guêtre à l'armée française.
On va le déculoter, le Bismarck. À bas le roi Prusse. Vive l'empereur. Vive l'armée. À Berlin. À Berlin.
C'est authentique ça, Pierre Milza, le fait que le ministre de la guerre avait dit il manque pas un bouton de guêtre au moment où se déclenche la guerre contre la Prusse. Alors il y avait peut-être tous les boutons de guêtre étaient là, mais on manquait de matériel et de soldats.
Il manquait surtout d'hommes. Ouais. Et je crois qu'il faut bien souligner que Napoléon III en avait conscience dès 1867. La France peut aligner au début de la guerre entre 200 et 300 000 hommes, l'Allemagne trois fois plus. Or, Napoléon III en 1867 a tenté de changer la loi militaire, d'introduire la conscription obligatoire. Elle ne l'était pas, c'était le tirage au sort. Et là, il était lâché par sa majorité parlementaire, il était lâché notamment par les orléanistes qui ont refusé cette loi, et du coup, il y a eu une loi beaucoup plus bâtarde qui n'a pas permis à la France d'avoir les effectifs suffisants, et ça, il le sait.
Alors, il avait dit, Napoléon III, l'Empire, c'est la paix. On pourrait ajouter, plus d'Empire, car c'est ce qui s'est passé. Il voulait consolider l'Empire en s'engageant dans la guerre contre la Prusse. Et puis, il y a eu Sedan. Il y a eu la proclamation de la République, le 4 septembre 70. Alors ça, c'est curieux, parce que si ce régime était si populaire, comme vous le dites, Pierre Milza, comment se fait-il que personne ne soit venu à son secours quand la République a été proclamée?
Quand il y a un grand traumatisme national... Les Français lâchent le régime qui est en place. Il y a eu le Second Empire, mais il y a eu le Premier Empire, qui finalement s'est battu pour Napoléon Ier au moment de l'abdication. Et il y a eu, il y a le Second Empire, il y aura juin 40. Dans tous les cas, si nous prenons d'autres exemples, l'exemple de l'Italie fasciste en 1943, nous constatons que deux régimes qui pouvaient quelques mois, quelques semaines avant apparaître encore comme très populaires, se trouvent brusquement lâchés à un moment de traumatisme profond qui secoue, qui bouleverse complètement l'opinion publique.
Mais impopulaire, il est resté pour longtemps. Napoléon III donc est fait prisonnier, puis ensuite il va partir en exil à Londres où il meurt en 1873. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il n'y ait plus, alors que par exemple le corps de Napoléon Ier a été ramené aux Invalides, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune rue ne porte le nom de Napoléon III aujourd'hui, plus de 130 ans après la fin de l'Empire?
Alors on a quand même avancé un petit peu sur la pointe des pieds. Alors il y a d'abord eu des rues ou des avenues ou des boulevards Napoléon III à Nice, à Brest, à Annecy, à Plombières. Et depuis janvier 1987, première cohabitation, il y a à Paris, et les gens ne savent pas, une place Napoléon III, ancienne place de Roubaix, c'est-à-dire la place quand vous allez prendre le train pour Londres, pour Bruxelles, vous entrez dans la gare du Nord par la place Napoléon III. Alors c'est un petit pas en avant pour dire, bon, après tout, on a peut-être été un peu injuste envers ce personnage qui a fait incontestablement des choses répréhensibles. Il s'agit pas de blanchir Napoléon III sur tout ce qu'il a fait, mais auquel incontestablement la France doit et sa modernisation et peut-être une certaine, contrairement à ce qu'on peut penser, une certaine avancée sur le plan institutionnel. Je crois qu'on ne passe pas du jour au lendemain, ça gagne M. Bouche, je crois pour le croire, d'un régime dictatorial à la démocratie, ou d'un régime monarchique à la démocratie.
Et un personnage et un Second Empire que l'on retrouve dans votre biographie de Napoléon III, Pierre Milza, qui a été publié chez Perrin, un livre que je recommande, qui est vraiment tout à fait passionnant. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Bouvard et Pécuchet de Jean-Daniel Verreg, Remontons les Champs-Élysées de Sacha Guitry, L'Alsace sous les deux Mathildes de Michel Favard, et enfin Nana de Christian Jacques, des films disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Éric Gérard et Olivier Rieu.